Alors, nous nous retrouvons donc dans les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est l'heure de notre dossier. Et ce soir, on va entendre une première partie d'une rencontre qui a eu lieu à Toulouse lors du festival Origine Contrôlée. Le festival Origine Contrôlée qui est organisé par le Tacti Collectif. C'était la 5e édition cette année et ça se passait donc en novembre dernier, en novembre 2008. Et on va entendre donc une rencontre avec Françoise Vergès. Vergès, qui est présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage et qui est professeure d'histoire à l'Université de Londres et qui a publié en 2005 un livre d'entretien avec Aimé Césaire qui s'intitule « Nègre je suis, nègre je resterai ». Et donc la rencontre était consacrée à la pensée d'Aimé Césaire à travers donc, l'intervention de Françoise Vergès. On va tout de suite entendre Salah Amokrane du Tacti Collectif qui nous présente le débat et on va entendre le début du débat. Voilà.
Quand à Origine Contrôlée, on a réfléchi à la programmation des rencontres de cette édition, la disparition d'Aimé Césaire cette année nous a paru nous imposer la nécessité d'avoir un échange autour de Aimé Césaire et de sa pensée et de son œuvre, mais aussi je vous le cache pas. Bon, évidemment, quand il est mort, bien sûr on ne pouvait que se féliciter des multiples hommages qui lui avaient été rendus. On a eu un peu le sentiment parfois que dans cette multitude d'hommages, il y avait une petite tendance à euphémiser sa pensée et aussi ses points de vue politiques également. Donc, on a immédiatement pensé à Françoise Vergès pour venir nous parler d'Aimé Césaire, mais aussi du contexte dans lequel on est aujourd'hui et finalement de l'actualité de la pensée d'Aimé Césaire. Pas seulement d'un point de vue de l'hommage, mais aussi de l'actualité de sa pensée. En tout cas, c'était notre point de vue. Je pense qu'on va se rejoindre là-dessus. Et voilà. Et j'ai demandé à Chirso, qui est un ami de Bordeaux, qui travaille beaucoup comme nous ici sur ces questions-là dans la région bordelaise, de faire le lien, un peu d'animer la discussion et de faire le lien aussi avec d'autres questions. Donc je vais te passer la parole, Cher, pour lancer la discussion.
Merci. Alors moi je vis à Bordeaux, plus particulièrement à Bègles, et donc je me présente plutôt moi comme militant d'éducation populaire, tout simplement. Alors pour cet entretien que nous avons aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un contexte. Le contexte dans lequel cela se passe, c'est le 11 novembre. Normalement, je devais être aujourd'hui, et je leur dis bonjour aux amis qui sont à La Teste de Buch. La Teste de Buch, c'est une petite ville entre Bordeaux et Arcachon où sont enterrés 900 tirailleurs africains de la Première Guerre mondiale. Et un jour, avec un ami, on se promenait et on a découvert ce lieu-là. Depuis 7 ans, tous les 11 novembre, c'est deux bus de 150 personnes qui se retrouvent à 8 heures devant le quartier des Aubiers, qui est un des quartiers malfamés de Bordeaux, où habitent des Sénégalais, et des Africains en général, et puis des Arabes. Et donc on se retrouve là avec des Burkinabés et des Tchadiens, et progressivement les anciens combattants marocains qui sont entassés dans des foyers qui attendent de recevoir le solde. Et donc, régulièrement, on se rend au cimetière de La Teste de Buch avec les enfants, les mamans. Et maintenant, on est accueillis par l'armée du camp de Kazo. Et donc, les amis sont en train, en ce moment-là, à mon avis, de faire un déjeuner après avoir participé aux festivités, aux cérémonies de commémoration. Donc, il y a 900 tirailleurs africains. De l'autre côté, il y a la stèle pour les originaires du Maroc, comme s'ils n'étaient pas africains, et puis il y a les Américains. Alors, c'est intéressant parce que c'est un premier contexte dans lequel se passe notre rencontre. Et puis, j'étais très ému de vous avoir entendu chanter Myriam Akeba. Elle nous a quittés. Myriam Akeba, c'est une Africaine du Sud qui a beaucoup combattu aux côtés de l'ANC, qui, parce qu'elle avait participé à un clip, à un film contre l'apartheid, s'est vue refuser de retourner chez elle. Certains ne le savent pas, mais Myriam Akeba avait aussi été proche de Sékou Touré, qui avait dit qui s'était opposé à De Gaulle. Elle a été ministre de la Culture sous Sékou Touré. Voilà. Et Myriam Akeba a été aussi l'amie d'un des grands, en fait, d'un des grands chefs des Black Panthers. Alors ça m'amène aussi à une autre situation, c'est Obama. Voilà. Alors, le symbole Obama. Bien sûr, on a accepté Obama après avoir liquidé tous les gauchistes noirs, mais c'est Obama, c'est le symbole. On en parlera. Et puis, un autre contexte, c'est la remise en cause de certaines lois mémorielles. Tout d'un coup, on se dit, mais il ne faudrait plus parler de ça. On en parlera aussi avec François. Et fort de ce contexte-là, nous recevons Françoise Vergès, qui est réunionnaise, elle est maître de conférence, directrice de maîtrise et de thèse de doctorat à l'Université de Londres. Alors, j'ai piqué ça sur Internet. Hein. Tu me dis, maintenant, comment parler de portail, maintenant j'y vais. Hein. Donc, tu es impliqué familialement dans le statut identitaire et départemental de l'Outre-mer, grand-père Raymond Vergès, qui a travaillé aux côtés d'Aimé Césaire à la départementalisation de 1946. Elle est vice-présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage et rapporteuse générale, je dirais, pas rapporteur, rapporteuse générale du texte remis en 2004. Voilà. Nous allons parler d'Aimé Césaire. Aimé Césaire, pour nous, était un sage. Un sage qui nous a montré que quand on voulait, on pouvait, et qu'il fallait, comme disait Bob Marley, nous libérer de notre univers mental. Emancipate yourself from mental slavery. Et à travers ça, nous sommes positionnés comme des anticolonialistes qui ont vu effectivement la réalité de la colonisation, mais qui ne voulions pas que la colonisation nous aliène. Et c'était tout le mouvement du post-colonialisme. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on va commencer avec les entretiens que tu as eus avec Aimé Césaire. Pourquoi, et nous dire une substance de ce que tu en as tiré.
Alors, comme tu disais, je pense que de toute façon, depuis quelques années, on est à un moment tournant, qu'il y a vraiment des enjeux très très importants autour de ce qu'on appelle les mémoires de la colonisation et les mémoires de l'esclavage, et que où on va réussir à faire passer des choses, où on va reculer. Mais on est vraiment à un moment tournant, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui ont changé. Et c'est vraiment la question de quel récit national la France va se donner. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire d'être français ? Qu'est-ce que c'est que l'identité française ? Qu'est-ce que c'est que le récit national français ? Ça, je pense que vraiment, c'est les questions en ce moment qui se posent et qui sont vraiment des gros enjeux. C'est vraiment, donc il y a ce moment tournant, il y a évidemment l'élection de Barack Obama. Ce que je trouve très important dans cette élection, c'est outre évidemment l'incroyable symbole de voir des Noirs à la Maison-Blanche qui ne sont pas les domestiques et des petites filles qui ne sont pas les filles de la cuisinière. Ça, je trouve ça absolument important. Je trouvais intéressant de voir comment en France, déjà, les politiques essayaient d'effacer l'importance de cette élection pour la France, c'est-à-dire en disant, ben justement, Obama a voulu une démocratie post-raciale, ben justement, on ne va quand même plus parler de ces choses-là. Vous voyez bien, il faut aller de l'avant, il ne faut pas aller en arrière, sans évidemment voir que si Obama est là, il est sur, comme on dit, sur les épaules de tous ceux qui sont morts avant lui et qui sont battus, de Frederick Douglass à Sojourner Truth, en passant évidemment par le mouvement des droits civiques et tous ces gens, et que sinon, sans eux, et qu'on ne va pas faire l'économie d'une confrontation au passé colonial et au passé esclavagiste de la France, tout d'un coup, pour passer à une démocratie post-raciale. Une démocratie post-raciale, ça se construit. Ça se construit, ça ne se décrète pas. Donc je pense qu'il y a ça. Il y a aussi, évidemment, comme tu le rappelais, toute cette agitation autour des lois mémorielles qui a commencé dès 2005 et qui se poursuit. Il y a cette mission parlementaire sur les lois mémorielles. Moi, j'ai été auditionnée, je pourrais en parler. Enfin, je peux en parler surtout parce que c'était intéressant de voir les questions qui m'étaient posées et les réflexions qui m'étaient faites. Ça, c'était vraiment assez important. Il y a aussi toute cette question de la diversité, avec toutes ces idées d'un Grenelle de la diversité ou dans les états généraux de la diversité, peu importe comment on les appelle. Tout d'un coup, il y a quelque chose autour de la diversité en France qui, depuis quelque temps, mais enfin là, il serait question, puisque même l'épouse du président de la République est pour. Alors vraiment, les choses sont vraiment... Alors ça, c'est un contexte, on pourrait dire, national. Puis il y a un contexte plus international, c'est-à-dire que quand même, il y a aussi toute une question autour de quels sont les récits de l'histoire du monde, même pas simplement de l'histoire française, mais de l'histoire du monde qui sont vraiment en jeu en ce moment. Et on voit bien que l'Europe et même l'Occident devient de plus en plus des provinces du monde. C'est vraiment c'est une provincialisation, il y a d'autres récits qui émergent et d'autres temporalités, c'est-à-dire tout ne commence pas avec l'histoire de l'Europe. Et ça, on le sent peut-être moins quand on est ici en France, mais ça se sent très très fort dès qu'on sort de l'Europe. Donc ça, c'est un petit peu le contexte aujourd'hui qui montre à quel point je pense que ces questions sont toujours importantes. Alors bon, pourquoi Césaire en 2004 ? Pourquoi je suis allée rencontrer Aimé Césaire ? Parce que je trouvais justement qu'on ne parlait plus de lui. Qu'il avait complètement disparu de la conscience, on n'en parlait pas, c'était comme s'il était mort et enterré. Et je trouvais ça absolument injuste, parce que là, tout le monde parlait, je parle de la question noire, etc. Et puis je me disais, mais c'est insensé, il y a cet homme qui est là, et dont on ne parle pas. On ne s'intéresse même pas, on ne lisait plus du discours sur le colonialisme, on ne lisait plus Cahier d'un retour au pays natal, sans parler de tous les autres travaux. Alors je lui ai envoyé une petite lettre en lui rappelant un peu, moi je l'avais vu quand j'étais toute petite, mais surtout le rappelant qu'il avait travaillé avec Raymond Vergès, comme tu l'as dit. Et il m'a répondu tout de suite, et moi je me disais, bon, j'envoyais ça en juin, et puis je me dis, bon, ou en mai 2004, puis je me dis, bon, il va me répondre dans 6 mois. Il me répond pratiquement 15 jours après, il me dit, bon, quand est-ce que vous arrivez ? Alors j'ai dit, ben, moi je pensais, je sais pas, dans 6 mois, tout ça, etc., je vais arranger ça. Il me dit, mais pas du tout, vous arrivez dans 15 jours, moi je suis vieux, je peux mourir d'un moment à l'autre, il faut que vous veniez. Ah d'accord, alors je suis allée le voir, et c'est ce que je raconte, je le voyais tous les matins. Et on avait, parce qu'il se fatiguait quand même très rapidement, et donc tous les matins, il y avait des entretiens. Pour moi, l'enjeu, c'était de redonner à la voix de Césaire et à ce qu'il avait dit tout le poids, tout l'intérêt que ça pouvait avoir. C'est-à-dire, à la fois, c'est comme tout héritage, il y a des choses qu'on garde et il y a des choses qu'on ne garde pas. Je veux dire, quand on vous laisse un héritage, vous ne gardez pas tout. Je veux dire, sinon, la maison, on ne peut plus y vivre. Mais quand même, vous regardez tout ce qui est et vous retraversez tout cela et vous pouvez de nouveau mettre de certaines choses de côté et garder d'autres pour que justement qu'il y ait de la transmission. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était voir l'héritage de Césaire dans cette chaîne de transmission. Donc qu'est-ce qu'il fallait dire ? Il m'intéressait aussi de faire parler Césaire sur les questions dont on débattait déjà, c'est-à-dire les mémoires de l'esclavage, la question des réparations, faut-il des réparations, pas des réparations ? Comment voyait-il la France ? Aujourd'hui, avec toutes ces questions autour d'une France plurielle, pour utiliser ce terme, ou pluriculturelle, c'était des questions, je voulais le faire parler sur aujourd'hui, et pas simplement sur ce qu'il avait fait, sur son passé, est-ce qu'il était content, est-ce qu'il était vraiment, quand il avait rencontré... Ça avait été fait 1000 fois. Ce qui m'intéressait, c'était aujourd'hui, qu'est-ce que lui pensait ? Qu'est-ce qu'il pensait de la Martinique ? Qu'est-ce qu'il pensait de la France ? Et c'est ces questions, et je trouvais que ces réponses, justement, ce qui m'a aussi évidemment beaucoup touchée, c'est que ces réponses étaient très absolument pertinentes pour nous, c'est-à-dire qu'il était tout à fait conscient des limites auxquelles se heurtait la France, et qu'il disait, si la France continue comme ça, elle va dans une impasse. Je trouvais ça absolument important. Je trouvais aussi important ce qu'il disait sur les mémoires de l'esclavage, c'est-à-dire qu'il est à... Parce que, en tant que présidente, parce que je suis présidente maintenant, du comité pour la mémoire de l'esclavage, je me heurte aussi à tout un côté... une fétichisation, je pourrais dire, du statut de victime. Et Césaire disait, mais ça nous est arrivé. Rien n'enlèvera ça. Il faut vivre avec ça et c'est tout. Et je trouvais ça, c'était extrêmement important pour moi de le faire dire. Il était, je veux dire, pour moi, ça nous est arrivé, c'est arrivé. Voilà, on ne va pas changer ça. Par contre, on va essayer de comprendre comment c'est arrivé. On va essayer de comprendre comment on a fabriqué du consentement. Ça dure 4 siècles. Comment les gens acceptent pendant 4 siècles. Ça n'est pas un scandale. Ça prend très, très, très longtemps avant de devenir un scandale. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous apprend comment on accepte des choses, finalement. Alors que, par exemple, l'esclavage est quand même dénoncé très tôt. Il est très tôt dénoncé en Europe. Hein. En Europe, assez tôt, il y a des voix qui s'élèvent en disant c'est de la barbarie. Oui. Mais même avant, il y a un moine espagnol très, très, très tôt. Parce que les premiers esclaves, les premiers bateaux négriers portugais, on est vraiment à la fin du XVe siècle. Et déjà, il y a des voix, il y a des moines portugais, des moines espagnols qui s'élèvent en disant c'est absolument scandaleux. Bon. Donc le scandale, il est là, il est dit, mais il ne fait pas scandale. Et je trouve ça très, très intéressant, même pour nous, aujourd'hui, de comprendre comment quelque chose qui est dit, qu'on voit, on comprend que c'est scandaleux, et malgré tout, ça continue à se faire, ça continue à se passer. Je voulais aussi, pour moi, la question de l'esclavage, c'était très important de faire comprendre que ça n'avait pas été aberrant, que ce n'était pas un moment d'aberration incompréhensible. Non, c'était tout à fait organisé, c'était un commerce, ça affecte le droit, ça affecte la littérature, ça affecte l'art, ça affecte l'économie, ça affecte le politique, la philosophie. C'est vraiment quelque chose, c'est aussi un moment transcontinental. C'est un des premiers grands commerces transcontinentaux. C'est une première globalisation, mais vraiment forte. C'est vraiment, on est là, et la résistance sera transcontinentale. On oublie trop souvent que la résistance sera transcontinentale. C'est un des premiers grands mouvements transcontinentaux, le mouvement contre l'esclavage. Et ça, je trouvais ça très, très important. Donc je voulais aussi qu'on remette ça en avant. À travers tout ça, je voulais aussi qu'on souligne que les héritages de l'esclavage sont très complexes. Souffrance, exil, déportation et création de culture, qui sont aujourd'hui le patrimoine culturel de l'humanité tout entière. Le Brésil, aujourd'hui, ne serait pas ce qu'il est sans la présence africaine. Les États-Unis, pas de jazz, pas de blues, pas de littérature, pas de poésie, pas de Toni Morrison. Les Caraïbes, ben, ça serait autre chose. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de culture, mais ça ne serait pas celle qu'on connaît. Il n'y aurait pas le reggae, il n'y aurait pas le biguine, il n'y aurait pas toute cette puissance, l'océan Indien. L'Europe ne serait pas ce qu'elle est. Je veux dire, les États-Unis, sans la présence africaine, aucun de nous n'irait aujourd'hui danser, parce que c'est quand même une immigration en majorité allemande, du côté blanc. Mais moi, je ne nous vois pas tellement danser sur les danses des campagnes allemandes. Donc on voit bien, c'est un patrimoine culturel mondial, ça appartient. Que l'on soit descendant d'esclaves ou pas descendant d'esclaves, descendant de négriers ou pas, cet événement a changé le monde profondément. Mais nous a légué tout cela. Et la résistance absolue du captif déjà, parce que l'abolitionniste, le premier abolitionniste, c'est le captif qui se rebelle. Ce n'est même pas avant même des révoltes sur le bateau. Donc toute cette longue histoire à la fois du consentement, qu'on fait consentir des peuples à cet horrible commerce. Qu'on fait que quand même, malgré le scandale. Cette histoire de la transcontinentalité, de la résistance transcontinentale, je trouvais que c'était essentiel. Et Césaire, je trouvais, avait pointé ça du doigt. Il nous avait dit déjà que c'était absolument important, qu'il fallait qu'on prenne conscience de cela. Il nous avait aussi dit déjà que cette histoire donc, n'était pas aberrante ni délirante. Et justement, moi, je sais que très souvent, on me pose la question... Mais comment on peut expliquer ça? Mais c'est pas possible. Mais les gens, ils n'étaient pas scandalisés. Mais l'Europe, elle devient complètement addicted, je trouve plus mon mot là, au sucre. Mais c'est vraiment, elle ne peut pas s'en passer. Elle ne peut plus s'en passer. Et on se souvient que Saint-Domingue donne plus de la moitié du sucre que toute l'Europe consommait. Donc c'était l'importance de Saint-Domingue. Les gens ne peuvent pas se passer de sucre. Le sucre est un statut social, pas simplement du goût, mais c'est le statut social, parce que justement, on avait du sucre et pas du miel pour sucrer, donc on avait un statut plus important. Et on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer, donc on veut minimiser les conditions dans lesquelles cette chose a été produite. C'est la fameuse phrase de Voltaire, est-ce qu'on connaît le prix du sang ? Et ce que je veux expliquer par ça, qui revient à mon point précédent, c'est que nous aussi, je veux dire, comment on laisse faire des choses, tu vois ? C'est-à-dire, moi, ce que j'explique aux gens, Mais tous les jours, on va faire notre plein dans la voiture, mais chaque litre qu'on met, on se dit pas. Bon, alors ça fait combien d'Irakiens qui sont morts pour ça? Ça fait combien de kilomètres carrés en Angola ou Biafra qui sont pollués? Ça fait combien d'enfants en Indonésie? On ne se le dit pas. On fait notre plein, puis on part. On ne veut pas, on ne s'arrête pas de consommer de l'essence. Eh bien, on n'est pas différent des gens qui n'arrêtaient pas de consommer du sucre. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire, et c'est ça que Césaire pointe, c'est-à-dire la construction de tout ça. Donc ça, pour moi, Césaire était très contemporain. Donc et aujourd'hui, il continue à l'être par rapport à toutes ces questions que tu as pointées, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est aujourd'hui les enjeux autour des lois mémorielles, qu'est-ce que ça signifie qu'Obama soit élu, qu'est-ce que c'est la question de la diversité en France, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui un récit national français qui se transformerait, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui l'identité française, quelle est cette identité française qui se veut blanche et chrétienne, absolument, qu'est-ce que c'est que ce récit national français qui est absolument enfermé dans les frontières hexagonales, qui absolument n'arrive pas à inclure quelque chose en dehors. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, quand on parle de la France dans les journaux, il y a la France et la Corse. Alors, on n'oublie pas la Corse parce que sinon, on aurait des ennuis. Bon, alors on la met. Mais les statistiques nationales n'incluent jamais les Outre-mer. N'incluent jamais les Outre-mer. Santé, éducation, travail, n'incluent jamais. C'est-à-dire, tu vois que la République, elle est construite, elle continue à être construite en 2008 en excluant des groupes entiers.
Au bout d'un certain temps, je me suis dit, il faut que j'aille à Paris, parce que continuer comme ça, j'étais encore fragile, je sentais qu'il fallait me renforcer, apprendre, et puis aller dans la gueule du loup, vraiment, dans la capitale de l'impérialisme. C'est là que je devais venir, c'est là que l'épreuve décisive devait se passer.
Je suis né juste après l'extinction d'un feu, dont je garde des presses fumantes au creux, de ma gorge, de ma langue, de mes yeux, à ce pays de sable je n'ai jamais dit adieu. On m'a porté à bout de bras jusqu'ici, dans la poussière d'un septembre après-midi, dans des langes dépliées par le bruit, dans l'espoir d'entrevoir un peu la vie. Ça ne s'oublie pas un être humain qui n'a plus rien et qui s'arrache pour mettre à table un bout de pain. C'est comme la peur du noir dans une chambre sans fenêtre. C'est comme les mots rares d'un analphabète. Et puis j'ai grandi en apprenant des noms de géants. Pharaon, Fanon, Kateb, Yassine. Comme le trésor de guerre à la fin du film. D'un bout à l'autre de ma trajectoire, de l'Algérie s'évade et revient me voir. Tout comme je verrai jusqu'à l'ultime soir le pas de mon père et ses mains noires.
Les mains noires, ce sont celles de ma mère, de beaucoup de mes héros, de certains de mes alliés. Quand je quitte ma terre, celles de ma grand-mère qui me font des adieux du haut de son palier. Les mains d'Aimé Césaire qui m'ont hypnotisé quand elles ont saisi la plume et l'encrier. Et puis m'ont rendu la dignité avec le retour au pays natal de son cahier. Les mains de Martin, de Malcolm, de Toussaint, sans oublier le poing de Tommy Smith, de France Fanon, de Raphaël Confiant, de Rosa Parks et d'Angela Davis. Les mains mutilées, empalées, empilées, gangrénées, à genoux, sans raison, enchaînées, qui ont tenu bon même à bout et dominé. Je suis fier d'avoir les mêmes que celles de mes aînés.
Imaginez ce spectacle extraordinaire, 10 volcans à la fois crachant leur lave pour faire la Martinique. C'est fantastique, quelle licence prodigieuse. Ça vaut mieux que les bim-bom.
Colère cosmique
et tourner la colère créatrice. Elle est créatrice. Là, nous sommes loin de cette dérive sous la mer endormie, c'est beaucoup plus que ça. C'est des termes de colère, c'est des termes exaspérés, c'est des termes de crash qui vomissent et qui vomissent la vie. Et c'est de cela que nous devons être dignes. Cette parcelle créatrice, il faut la recueillir et il faut continuer la première. Il faut la continuer. Et non pas s'endormir, une sorte d'acceptation et de résignation.
Voilà, toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, les oreilles loin du front, et on poursuit l'écoute de cette rencontre avec Françoise Vergès qui avait lieu donc au festival Origines Contrôlées à Toulouse le 11 novembre 2008, et donc une rencontre avec Françoise Vergès autour d'Aimé Césaire.
Alors, je voudrais revenir sur cette position de Césaire. C'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Tu sais bien qu'aujourd'hui, on a aussi un courant de pensée qui veut faire croire que l'esclavage est arrivé partout. Et donc, les Noirs n'ont pas nécessairement à revendiquer à travers l'histoire, parce que les Grecs ont eu de l'esclavage chez eux, que tel ou tel peuple a connu l'esclavage. Et finalement, comme c'est arrivé, un jour, ça passera. Et donc, il n'y a pas nécessairement besoin de faire tout un... Voilà.
Je pense que c'est une question extrêmement importante parce que l'esclavage, justement, nous pose vraiment deux questions très profondes. Alors, il y a la question historique, et la question historique, elle est très claire. Il y a de l'esclavage dans l'Antiquité, il y a de l'esclavage après. L'esclavage, ce que les historiens appellent l'esclavage colonial, qui commence au XVIe et se termine et est aboli au XIXe, c'est un esclavage qui va racialiser la servitude, qui va l'africaniser. Et tu n'as pas ça dans l'Antiquité. Tu n'as pas ça non plus après. Même pendant le Moyen-Âge, tout ça, c'est-à-dire que les esclaves sont les prises de guerre, les femmes pour les harems, les choses comme ça. Mais peu importe leur origine, on ne cherche pas une origine particulière. Enfin bon, il y avait certaines femmes qui étaient plus prisées que d'autres pour les harems, certains hommes qui étaient plus prisés que d'autres pour servir dans l'armée. Mais il n'y a pas, on ne se sert pas simplement dans un endroit. Seul l'esclavage colonial va et dire... La seule source, c'est l'Afrique, et les esclaves seront noirs. Et cette équivalence entre noirs et esclaves, elle se fait très fortement en Europe, et pour la France, elle se fait à tel point qu'à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, noirs et esclaves deviennent synonymes dans les dictionnaires. C'est-à-dire que tu regardes les dictionnaires, tu vois noir, synonyme esclave. Tu regardes esclave, synonyme noir. Non. Il y a vraiment profondément... et puis alors l'explication biblique, tout ça. Donc ça, l'esclavage colonial est très particulier pour ça. Il a aussi une chose, l'esclavage colonial, c'est qu'il produit un très fort déséquilibre de sexe, parce que l'esclavage colonial a besoin surtout d'hommes, et donc va prendre en Afrique surtout des hommes jeunes, et donc produire ensuite de grands déséquilibres pour le continent démographique et des choses très fortes qui vont avoir un gros impact sur le développement de l'Afrique, puisque dans les plantations, on avait besoin d'hommes jeunes, surtout les plantations des îles à sucre, parce que le travail dans les champs de canne à sucre est très dur. Et c'est la différence avec l'esclavage aux États-Unis, pardon, où c'est le coton, et le coton peut être amassé par les femmes et les enfants. Les cannes à sucre, c'est des hommes jeunes, et les hommes, c'était entre 14 et 25 ans, c'était les plus prisés. Ça, c'est aussi quelque chose de très particulier, alors que l'esclavage antique, bon, on a besoin d'hommes pour l'armée ou pour les gladiateurs, on a besoin de femmes pour les harems. Il n'y a pas de... donc sexué autant. Donc c'est africanisé, sexué, l'esclavage colonial, ça n'est pas autant. Bon, ça c'est une première, donc ça, il y a une différence qui s'énonce. Ensuite, ta deuxième question. Oui, il y a une autre question qui est une question anthropologique et qui est une question très forte ou très politique, c'est que de tout temps, les hommes ont asservi d'autres hommes. Et là, on revient profondément à la question de l'exploitation. Et ça, c'est une question très, 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 très importante, parce que très souvent, dans la question de l'esclavage, ce qui est un peu évacué, c'est la question de l'exploitation de l'homme par l'homme, comme disait quelqu'un de très fameux. Et ça, je pense que ça... Et ça, ça reste aujourd'hui, puisque il y a des nouvelles formes de servitude. La question, c'est cette... Donc, il y a deux choses, et elles ne sont pas du tout... C'est pas parce que l'une arrive qu'on ne peut pas examiner l'autre, tu vois.
Alors, toujours dans cette idée-là, que dire de ce qui aussi oppose aux partisans de la reconnaissance de la tête négrière comme crime contre l'humanité, cet argument que... On n'a pas été les seuls, que les Africains aussi ont vendu leurs frères, que les Arabes aussi ont colonisé. Et voilà. Est-ce que dans les entretiens avec Césaire, ou même dans ta réflexion, cette affaire-là...
On dirait que vraiment c'est des réponses d'enfants de 4 ans. Je veux dire, moi, je suis stupéfaite quand je vois des gens adultes qui nous répondent ça. Les autres l'ont fait avant, ou les autres ont commencé, mais c'est absolument absurde. Et ensuite, quand même, l'Europe, quand elle commence ce commerce, c'est aussi au moment où elle affirme au monde les principes d'universalisme, d'universalité des droits. liberté, égalité. La déclaration des droits de l'homme, bon, mais enfin c'est comme ça, et du citoyen, c'est tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Pourquoi il y a ce sauf quelques-uns ? Donc ça, c'est quand même une contradiction très forte à l'intérieur de l'Europe, de la pensée européenne, très très forte, et ça, il faut quand même le soulever. Donc quand on nous dit « mais les autres l'ont fait », je vois même pas ce que ça signifie. Ensuite, il y a des formes d'esclavage, c'est quand même pas la même chose. L'esclavage colonial européen sera très particulier et de toute façon, il mérite donc d'être étudié. Enfin, de me dire que, par exemple, les tsars, je vois même pas l'intérêt, quoi. Je veux dire, c'est comme de dire il y a toujours eu des guerres, il y aura encore des guerres, donc c'est pas la peine de s'opposer aux guerres. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est quelque chose à laquelle je n'ose même pas répondre. Je conçois ça chez un enfant de 6 ans, mais pas chez...
Alors, comme quoi, dans nos intellectuels, il y a des enfants de 6 ans.
Je ne veux pas insulter les enfants de 6 ans. Hein.
Ouais. Alors, dans tout ce que tu dis, il y a quand même cette nécessité peut-être de réécrire l'histoire, de la réécrire. Justement, comme on parle des enfants de 6 ans, nos enfants d'aujourd'hui sont demain effectivement ceux qui vont gérer ces pays et dans ces relations internationales. Et on sait très bien que, comme tu l'as dit, nègre c'est esclave, esclave c'est nègre. Comme mon fils qui vient, qui me raconte ce qu'on lui raconte à l'école. Cette nécessité de réécrire l'histoire, c'est quand même un de tes combats.
Oui, ça c'était extrêmement important. Quand je suis revenue en France en 98, c'était le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans l'économie française. Le gouvernement était alors socialiste. J'étais stupéfaite parce que il n'y avait pas d'esclaves. On avait l'impression qu'il n'y avait pas d'esclaves. Il y avait que des abolitionnistes qui étaient évidemment français, qui étaient les grands guides, tout ça, qui avaient apporté la liberté à tous ces pauvres personnes. J'ai trouvé ça absolument scandaleux. Je me suis dit, mais c'est même pas possible qu'on soit en 98 et que ça continue comme ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à intervenir là-dessus, sur cette question. Je trouvais que c'était pas croyable. Il fallait absolument réécrire, oui. Il fallait réécrire, faire entendre ces voix, faire entendre vraiment, et puis faire entendre l'incroyable brutalité. Tu sais que quand tu lis vraiment les témoignages des esclaves ou les récits des tribunaux, les images de brutalité qu'on a en Europe, c'est la Seconde Guerre mondiale, ce qui est le plus récent, avec l'incroyable brutalité des nazis. Et c'est pas du tout pour diminuer ça, parce que c'est effrayant. Mais la brutalité de l'esclavage est incroyable. La mortalité sur les bateaux, elle est de 10 à 12%. C'est-à-dire même chez les marins européens, je veux dire, c'est une machine de mort. L'esclavage est une machine de mort. Et quand on te dit, ça ne devait pas être si dur, puisque de toute façon, comme c'était la force de travail, il fallait la protéger. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout parce qu'il y avait un sentiment qu'on pouvait toujours aller en chercher. Donc il y avait un surplus constant et une offre constante. Et c'est une machine de mort. C'est d'une brutalité absolument effrayante. Et montrer l'incroyable barbarie, vraiment l'aspect barbare au cœur de ce commerce et au cœur de l'Europe à ce moment-là, est, je pense, extrêmement important. Et on peut l'enseigner, et on ne l'enseignait pas seulement dans l'histoire, on peut l'enseigner en littérature, faire lire les témoignages des esclaves.
Parce que je lis que donc, les colonies européennes, les textes de la Révolution haïtienne, la déclaration de Delgrès, les lettres, les romans, les poèmes constituent autant d'archives sur la pensée politique développée par les esclaves. Mais qui les étudie en dehors des spécialistes, qui connaît la culture et l'histoire des populations françaises.
Oui.
Ça, c'est toi qui
l'écris. Oui, je trouve ça absolument. Si tu veux, par exemple, dans les grandes révolutions du 18e, révolution anglaise, américaine, française, la révolution haïtienne est constamment évacuée, oubliée. La révolution haïtienne est une des plus grandes révolutions du 18e. Elle est, même avant d'autres, elle affirme l'égalité de tous. Elle affirme justement, puisqu'elle est née de la révolte des esclaves, qu'il ne peut pas y avoir de différence raciale. Et la révolution haïtienne, qui la connaît ? On ne connaît Haïti que par sa misère, ceci, cela, etc. On ne la connaît pas par ça, c'est-à-dire qu'elle a donné au monde. Et ça, c'est vrai. Alors, elle peut être enseignée en littérature, elle peut être enseignée dans les arts, elle peut être enseignée en géographie, elle peut être enseignée évidemment dans le droit. Le code noir ne fait pas partie des textes juridiques qu'on étudie. Comme si il n'était pas un texte juridique. Mais quand on étudie le droit, on devrait étudier le code noir. C'est un texte juridique qui met en place l'exclusion des personnes et qui met très clairement et qui régit toute la vie des personnes esclaves. C'est un des grands codes de l'exclusion.
Bon, mignon, tili, mie, mais. Bon, mignon, tili, mie, pour moi, ça a passé. Bon mignon ti li mie mè, bon mignon ti li mie souple, poum kawè. Pou ki sa se neg yo fè soufri, pou ki sa se neg yo fè soy, pou ki sa neg pa ka manje, pou ki sa yo mande. Mais c'est pas tout le monde qui jouit privilège ça. Gagne une série de mots, c'est pour une catégorie yo exister. Bonheur, joie, contentement à gaieté, yo pas jamais joui moment ça yo. Yo là y'a vivre au jour le jour. Après chit attendre, nous gain pour nous passer toute vie dans la salle d'attente. Maman nous t'es la donne, papa nous t'es la donne, nous même même nous rentrer là dans l'épirette. C'est tous ces fonds nous pour nous l'été, car la manne va tomber encore. Soleil éclairé pour nous tous, de nous tous va joindre même chalet. Soleil va éclairer pour nous tous, de nous tous va joindre même chalet. Soleil va éclairer pour nous tous, et tout le monde va joindre même chalet.
Voilà, toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, les oreilles loin du front, et on poursuit donc l'écoute de cette rencontre avec Françoise Vergès qui avait lieu le 11 novembre dernier au Festival Origine Contrôlée, festival organisé par le Tactique Collectif à Toulouse.
Alors, dans l'enseignement, il y a un petit peu, il y a quand même, bon, alors si on regarde les trois grandes puissances esclavagistes, hein, les plus grandes, enfin les Hollandais aussi ont été quand même pas mal, pas assez, mais enfin, si on regarde Angleterre, France et États-Unis, la France est le plus en retard dans l'enseignement. Vous trouvez aux États-Unis, vous trouvez par exemple, il y a le mois de février qui est le Black History Month, et il y a beaucoup de choses, même pour les enfants, des livres pour les enfants, il y a des tas de choses qui se font. Hein, je veux dire, il y a aussi pas mal de choses à la télévision, il y a beaucoup plus de documentaires. Bon, c'est pas complètement gagné, mais quand même. Et vous avez aussi à l'université, il y a énormément de thèses, il y a énormément de travaux de recherche, il y a des départements entiers, des laboratoires entiers de recherche depuis des années. Hein. Donc si vous voulez, si vous voulez trouver quelque chose, vous avez des étagères entières. L'Angleterre aussi, la France est beaucoup plus en retard. Donc dans ce cas, si on compare les trois, la France commence un petit peu à rattraper sous l'impulsion du comité, et notamment pour la mémoire de l'esclavage. Au début, quand on a commencé, on a été installé, on avait un prix de thèse. Il y avait une thèse dans l'année. Donc il y avait une thèse. Bon, bah, elle a eu le prix parce que quand même, il fallait bien la récompenser. Aujourd'hui, on en a quatre. Donc en 4 ans, parce qu'une thèse quand même, il faut du temps hein, pour l'écrire tout ça, mais on voit déjà, donc ça a été quand même multiplié aussitôt. Hein. Et je pense que les choses vont continuer. Il y a des nouvelles, il y a des thèses, il y a des tas de jeunes qui se mettent à réétudier l'esclavage et à aborder des choses qui étaient beaucoup moins abordées, la place des femmes. Alors là, c'est les Français, l'histoire des femmes, ils connaissent à peine encore. Je veux dire déjà en général, mais alors celle des femmes esclaves, ça n'existe même pas. On commence à en parler, ce qu'on appelle l'histoire culturelle aussi, de voir comment les langues se sont formées, les musiques ont été créées, quels étaient les rites que les esclaves faisaient pour la naissance et la mort. Tous les êtres humains ont des rites de naissance et de mort, donc ils en avaient certainement. Qu'est-ce qu'ils étaient, les différences aussi, parce que ça dure, comme je vous dis, ça dure 4 siècles, donc les choses changent hein, de siècle en siècle. comment ça se passe dans les différents endroits, que ce soit les colonies hollandaises, anglaises ou françaises. Donc il y a des travaux qui commencent et je pense que dans 10 ans, la France aura rattrapé son retard.
Tu écris donc toujours dans ce livre, il s'agit aussi de promouvoir des mémoires que l'historiographie s'avance à marginaliser, sinon occulter. La mémoire est devenue à juste titre objet de vigilance, mais elle risque d'être muséifiée, sacralisée, judiciarisée, banalisée et instrumentalisée. Apprendre l'histoire, enseigner l'histoire, oui, mais que faire de ces lieux de mémoire? Parce qu'il y a quand même de plus en plus cette demande d'avoir des lieux de mémoire pour se souvenir, et en même temps, à contrario, tout un mouvement qui liquide le courant de la reconnaissance. Donc, ta position autour de
oui,
ça.
Oui, en ce moment, en France, il y a une vraie campagne contre les lois mémorielles, mais surtout contre une loi, quand même, disons-le, c'est contre la loi Taubira. Il y a une vraie campagne contre la loi Taubira. Aimé Césaire, lui, il était... alors, je lui avais demandé ce qu'il pensait de la loi. Il trouvait que c'était très bien. Lui, il était il était contre les réparations. Et il était absolument contre les réparations.
C'était quoi son...
Parce qu'il trouve que c'est irréparable. Que de toute façon, rien. Et qu'il il avait ça. Et puis, il avait peur d'une deuxième... Il avait aussi peur d'une deuxième chose. C'est qu'il disait... Mais alors, les autres vont dire... Alors, combien tu veux? Tu veux ça? Bon, top là. Et puis après, on n'en parle plus. Alors qu'il trouvait que la question, c'était d'en parler, de faire connaître cette histoire, et que ce n'était pas la question d'avoir de donner, je ne sais pas, quelques sous aux gens. Donc, ça, il y a ça. La question des lieux de mémoire, il y a deux genres de lieux de mémoire. Il y a le lieu de mémoire mémorial, quoi, celui où on vient de se recueillir. Et ça, je pense qu'il faut. Tous les gens ont besoin d'un endroit de recueil. Tu sais, moi, par exemple, ce qui me frappe toujours à La Réunion, c'est qu'en 1948, quand il y a l'abolition de l'esclavage, il y a 60 000 esclaves sur 100 000 habitants. Personne ne va recueillir leurs témoignages. Ils vont disparaître sans sépulture, sans rien. Et ça, c'est pour moi, c'est un vide qui existe. Il faut leur donner une place. Il faut donner une place. Je veux dire, il faut que les gens puissent se reposer quelque part. C'est un geste symbolique de toutes les sociétés humaines. C'est de la culture. C'est de la culture au sens fort. Donc il y a ça. Et puis après, il y a ce qu'on appelle des centres d'interprétation, c'est-à-dire des endroits de ressources où les gens peuvent trouver de la documentation et de la ressource. Et je pense que les deux choses sont nécessaires. Le lieu de recueillement, où tu ne peux pas trouver de l'information. Un lieu de recueillement, c'est un lieu de recueillement. Je veux dire, tu vas te recueillir en hommage à toutes ces femmes et ces hommes disparus sans sépulture, sans nom, qu'on avait arraché à leur terre, qui ont disparu. On ne connaît même pas leur nom. Et je trouve ça absolument, c'est effroyable. Il y a ce fameux poème de Derek Walcott qui dit « La mer est histoire » et que tous les coraux sont comme les eaux blanchies des esclaves qui ont formé toutes ces barrières de coraux autour des îles, des choses. C'est très, je veux dire, c'est quand même une histoire absolument effrayante. Non, il faut ça, et à côté, il faut des lieux de ressources et de documentation. Et ça, il faut que ça reste vivant. Il ne faut pas que ça devienne muséifié et figé. Il faut qu'on continue à discuter, qu'on puisse continuer à parler, et notamment d'une des grandes choses qu'a donné l'esclavage, c'est le racisme. Et ça, Césaire, quand il dit « nègre, je suis nègre, je resterai », il le dit. Il dit « on me disait ça, le nègre », je dis, mais il lui répondait « le nègre t'emmerde ». Le nègre vous emmerde, madame. Et la question, c'est donc quand il dit ça, « nègre, je suis nègre, vous m'avez fait nègre », eh bien, j'en serais fière. C'est une histoire que je porte. Il n'y a pas de raison que j'en sois honteux. Et ça, cette dimension, c'est-à-dire que Césaire quand même voit aussi et qu'il propose, c'est que la traite et l'esclavage ont bouleversé donc le monde, comme j'ai dit, mais ont aussi créé ce qu'on appelle aujourd'hui une diaspora noire, pour utiliser ce terme. Mais c'est-à-dire une présence africaine qui dépasse les limites du continent, et qui fait qu'aujourd'hui, cette présence africaine, elle est partout et que Césaire l'affirme et l'a dit. Et dit sans, que la présence africaine fait partie de l'humanité. Et que l'humanisme européen a exclu de sa pensée toute une partie des gens et qu'il faut réintroduire. C'est ce qu'il appelle, de ses voeux quand il parle de nouvel humanisme. C'est-à-dire l'humanisme européen s'était fait sur des principes et des idées mais dans la réalité avait exclu, et comment aujourd'hui imaginer un nouvel humanisme pour une nouvelle humanité?
Donc vous dites qu'on a un Césaire qui revendique la négritude dans une dimension de lutte, de combat, et un Césaire plus tard, qui forge ce que tu appelles un nouvel humanisme. Qui
prend oui, mais compte... même sa négritude, il dit, hein, ça ne sera jamais une cathédrale. Tu sais, dans le cahier d'un retour au pays natal, il dit, ma négritude n'est pas une cathédrale. Pour lui, il n'est vraiment... C'est très fort, parce que quand j'ai demandé, même en 2004, j'ai dit, et alors si vous deviez donner des conseils de lecture, il dit, tout lire, absolument tout lire. Rien ne doit vous être interdit. C'est pas parce que vous êtes noir que vous devez lire des auteurs noirs. Lisez tout, prenez tout. La culture vous appartient, le monde vous appartient. Et ça, si tu veux, je pense que donc pour Césaire, être nègre, puisque c'était ce terme qu'il voulait utiliser, c'était faire partie du monde. Mais d'assumer ce qu'on avait fait de lui, mais en faisant quelque chose de fort et de positif. Et non pas de négatif. Il ne voulait pas être enfermé. Il disait là-dedans. Donc on l'avait fait nègre. Nègre il serait. Mais nègre ne signifiait pas qu'il appartenait entièrement à ce monde.
Voilà, donc c'était un des extraits de la rencontre avec Françoise Vergès qui avait eu lieu au festival Origine Contrôlée à Toulouse le 11 novembre dernier. On entendra la suite de ce débat et des compléments autour d'Aimé Césaire la semaine prochaine.
Ne se pose pas sur n'importe qui ni n'importe quoi. Les yeux de LSA en mode furtif survolent le 9-3. Vu d'en haut, le ghetto n'a plus de secrets qui tiennent. Pour le cyclope de l'hyper répression urbaine, les yeux de LSA en savent déjà beaucoup trop sur moi. Je ne supporte pas la promiscuité des bouchards. Que toutes les polices du monde viennent gerber sur mon trottoir. Je ne supporte pas la promiscuité des bouchards. Que toutes les polices du monde viennent gerber sur mon trottoir. Je me suis procuré le calibre, la lunette, apte à faire place nette. Le ciel est dégagé, la vision parfaite. À moins d'un calcul erroné, je la plume, je l'enclume, je la fume, j'attends l'heure. Rétinoviseur, les yeux de LSA ont cette air de famille où jubile la patrie, l'ordre, la loi. Les données qu'elle récoltera seront transmises au sol à ses sœurs, Ariane, Edwige, Christina. Je ne supporte pas la promiscuité des mouchards. Que toutes les polices du monde viennent gerber sur mon trottoir. Je ne supporte pas la promiscuité des mouchards. Que toutes les polices du monde viennent gerber sur mon trottoir.
Engin léger de surveillance abattu.
Je me suis procuré le calibre, la lunette, apte à faire place nette. Le ciel est dégagé, la vision parfaite. À moins d'un calcul erroné, je la plume, je l'enclume, je la fume, j'attends l'heure. Rétinoviseur.
Aria, Benjamin, Bertrand, Elsa, Gabriel, Manon, Mathieu, Hildune sont avec Julien Coupa mis en examen dans l'affaire de Tarnac. Ils ont proposé un texte commun publié dans Le Monde, daté du 16 mars, et intitulé « Face à un pouvoir toujours plus absurde, nous ne dirons plus rien ». Alexandrine va lire ce texte.
Voilà 4 mois que le feuilleton médiatico-judiciaire intitulé « L'affaire de Tarnac » ne cesse de ne plus vouloir finir. Julien Coupa va-t-il sortir à Noël ? Pour le nouvel an, y aura-t-il plus de chances vendredi 13 ? Non, finalement, on le gardera encore un peu en prison, enfermé dans son nouveau rôle de chef d'une cellule invisible. Puisqu'il semble que, que quelques personnes aient encore intérêt à faire perdurer cette mascarade, même au-delà du grotesque, il va nous falloir endosser, encore une fois, le rôle que l'on nous a taillé, les neufs de Tarnac, pour un nécessaire éclaircissement collectif. Alors voilà. Primo, pendant que des journalistes fouillaient jusque dans nos poubelles, les flics reluquaient jusqu'à l'intérieur de nos rectums. C'est assez désagréable. Depuis des mois, vous ouvrez notre courrier, vous écoutez nos téléphones, vous traquez nos amis, vous filmez nos maisons, vous jouissez de ces moyens. Nous, les neufs, nous les subissons comme tant d'autres. Atomisés par vos procédures, 9 fois 1, alors que vous, vous êtes toute une administration, toute une police et toute la logique d'un monde. Au point où nous en sommes, les dés sont un peu pipés, le bûcher déjà dressé. Aussi, qu'on ne nous demande pas d'être beaux joueurs. Deuxio, bien sûr, vous avez besoin d'individus constitués en cellules, appartenant à une mouvance, d'une fraction de l'échiquier politique. Vous en avez besoin, car c'est votre seule et dernière prise sur toute une part grandissante du monde, irréductible à la société que vous prétendez défendre. Vous avez raison, il se passe quelque chose en France, mais ce n'est certainement pas la renaissance d'une ultra-gauche. Nous ne sommes ici que des figures qu'une cristallisation, somme toute plutôt vulgaire, d'un conflit qui traverse notre époque. La pointe médiatico-policière d'un affrontement sans merci que mène un ordre qui s'effondre contre tout ce qui prétend pouvoir lui survivre. Il va sans dire qu'à la vue de ce qui se passe en Guadeloupe, en Martinique, dans les banlieues et les universités, chez les vignerons, les pêcheurs, les cheminots et les sans-papiers, il nous faudra bientôt plus de juges que de profs pour contenir tout ça. Vous n'y comprenez rien, et ne comptez pas sur les fins limiers de la DCRI pour vous expliquer. Tertio, nous constatons qu'il y a plus de joie dans nos amitiés et nos associations de malfaiteurs que dans vos bureaux et vos tribunaux. Quarto, s'il semble aller de soi pour vous que le sérieux de votre emploi vous amène jusqu'à nous questionner sur nos pensées politiques et sur nos amitiés, nous ne nous sentons pas, quant à nous, le devoir de vous en parler. Aucune vie ne sera jamais absolument transparente aux yeux de l'État et de sa justice. Là où vous avez voulu y voir plus clair, il semble plutôt que vous ayez propagé l'opacité. Et l'on nous dit que désormais, pour ne pas subir votre regard, ils sont toujours plus nombreux ceux qui se rendent à des manifestations sans téléphone portable, qui cryptent les textes qu'ils écrivent, qui font d'habiles détours en rentrant chez eux. Comme on dit, c'est ballot. Quinto, depuis le début de cette affaire, vous avez semblé vouloir accorder beaucoup d'importance au témoignage d'un mythomane, aussi appelé Sous-X. Vous vous obstinez, c'est courageux, à accorder un peu de foi à ce ramassis de mensonges et à cette pratique qui a fait l'honneur de la France il y a quelques décennies, la délation. C'en serait presque touchant si ça ne conditionnait pas l'accusation de chef à l'encontre de Julien et donc son maintien en détention. Si ce genre de témoignage ne justifiait pas des arrestations arbitraires comme à Villiers-le-Bel après les émeutes. Enfin, étant entendu que la marge de liberté qu'il nous reste est désormais fort réduite, que le seul point à partir duquel nous pouvons nous soustraire à votre emprise, réside dans les interrogatoires auxquels vous nous soumettez à intervalles réguliers. Que Julien s'est déjà vu refuser 4 demandes de remise en liberté, qu'il est notre ami, qu'il n'est rien de plus que ce que nous sommes. Nous décidons qu'à partir de ce jour, dans l'héroïque tradition d'un Bartleby, nous préférons ne pas. En gros, nous ne vous dirons plus rien, et cela jusqu'à ce que vous le libériez, jusqu'à ce que vous abandonniez la qualification de chef pour lui et de terrorisme pour nous tous. En résumé, jusqu'à ce que vous abandonniez les poursuites. Pour tous ceux qui, là où ils sont, se battent et ne se résignent pas, pour tous ceux que le ressentiment n'étouffe pas et qui font de la joie une question d'offensive, pour nos amis, nos enfants, nos frères et nos sœurs, les comités de soutien, pas de peur, pas d'apitoiement, pas de héros, pas de martyrs. C'est précisément parce que cette affaire n'a jamais été juridique qu'il faut transporter le conflit sur le terrain du politique. Ce que la multiplication des attaques d'un pouvoir toujours plus absurde appelle de notre part, ce n'est rien d'autre que la généralisation de pratiques collectives d'autodéfense partout où cela devient nécessaire. Il n'y a pas 9 personnes à sauver, mais un ordre à faire tomber.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Un Ainsi s'achève une nouvelle édition des Oreilles Loin du Front, avec autour de la table en chronique et en bonne humeur pour nous parler du film Welcome, Sophie. Pour nous faire entendre les voix des mobilisations dans les universités et dans les labos, Cédric. Pour nous tenir au courant des dates phares de la semaine, Alex, qui a réalisé par ailleurs le dossier sur la rencontre avec Françoise Vergès. Et enfin, dans les zones libres de la régie, Raphaël. On laisse maintenant la place à Claudia et ses échos du Capricorne.